en état d'urgence climatique.
Plus chaud que le climat.
Il faut que nous entrions en désobéissance civile.
Animé par Alternative à Nantes
et le GIGNV.
Il faut que nous menions des actions non violentes, déterminées.
Résistance et alternative au changement climatique à deux pas de chez vous.
Nous allons continuer ce travail pour construire une autre société. Tout cela est à notre portée.
Bienvenue à tous pour cette émission spéciale de Plus chaud que le climat, la chronique d'Alternativa et du GIGNV, une émission spéciale collapsologie qu'on a traitée avec plein d'invités et d'interviews. Et je passe tout de suite la parole à Fred qui va vous présenter tout ça.
Et oui, d'habitude, on se retrouve pour un quart d'heure de chronique et aujourd'hui, ben, on est là pour parler de collapsologie et de théorie de l'effondrement avec trois invités que j'invite à se présenter.
Bonjour, moi c'est Nora, je fais partie d'Extinction Rébellion. J'ai 24 ans et je milite chez Extinction Rébellion depuis à peu près un peu plus de deux mois maintenant.
Bonjour, je m'appelle Solène, alors j'ai 20 ans, je suis étudiante en lettres. Et je suis partie de Youth for Climate Nantes depuis trois mois maintenant.
Bonjour, Marc, un peu plus de 50 ans. Je milite à Extinction Rébellion depuis deux mois aussi.
Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter vos mouvements ? Donc, Extinction Rébellion d'un côté, Youth for Climate.
Alors, pour Extinction Rébellion, c'est un mouvement assez récent, hein, puisqu'il est, il est issu d'un mouvement un peu plus global, Extinction Rébellion Monde, si je puis dire, qui est né en Angleterre. Mais on va dire que l'Extinction Rébellion France, c'est vraiment depuis le mois de janvier 2019 où il y a, on va pas dire une explosion, mais une augmentation significative de ses membres.
Et le collectif de Nantes s'est créé à quel moment, lui ?
Ouais, à peu près au même moment, en fait. Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience des gens, puisque, bon, pas moi en tant que tel, puisque je suis arrivé un tout petit peu après la bataille, mais les gens qui l'ont créé, oui, c'était aux alentours de février.
D'accord.
Donc c'est un mouvement très très jeune, quoi.
Et Youth for Climate ?
Alors Youth for Climate, c'est un mouvement mondial qui a commencé à émerger l'année dernière à l'initiative donc, de la Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui a commencé à faire la grève scolaire pour le climat tous les vendredis. Et la branche donc, de Nantes, elle s'est créée un peu spontanément en février dernier pour organiser donc, la grève mondiale pour le climat donc, de la jeunesse le 15 mars.
Très bien, merci. Alors, on va commencer à parler donc de collapsologie et je ne vais pas vous demander tout de suite, enfin je ne vais pas moi-même déjà donner une définition de ce terme que probablement des auditeurs, des auditrices ne connaissent absolument pas, parce qu'en fait on va en écouter plusieurs, des définitions, des points de vue, et évidemment je vous inviterai à donner le vôtre. Et voilà, donc on est allé surtout à la rencontre de nombreux militants, effectivement, d'Alternativa et d'ANVECO 21, début avril, lors de la coordination européenne du mouvement qui avait lieu à Lille. Mais on s'est dit quand même qu'on n'allait pas faire que de l'entre-soi et qu'il fallait absolument qu'on ait également le point de vue d'autres mouvements. Et donc ça nous intéressait particulièrement d'avoir le point de vue de deux mouvements comme Youth for Climate et Extinction Rébellion, notamment parce que ce sont des mouvements justement, comme on l'a dit, récents, jeunes. Et puis dans le cas de Youth for Climate, c'est le mouvement qui incarne en plus vraiment la génération des lycéens et sans doute encore plus des étudiants. Donc, on écoute tout de suite les deux interviews de Gabi et de Thomas, qui sont deux militants de deux générations différentes. Gabi a 17 ans et Thomas, lui, est un père de famille d'une trentaine d'années. Ils sont militants Gabi à Poitiers, Thomas à Nantes.
Alors moi, c'est Gabi Josso, je viens de Poitiers. J'ai 17 ans. Alors pour moi, l'effondrement, c'est ce qui va arriver si jamais on change rien actuellement. C'est la société qui va imploser, qui va se détruire de l'intérieur, puisqu'il y a tout un tas de mécanismes qui sont complètement bancals, qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des inégalités qui se creusent, il y a le climat qui part complètement en sucette. Et en fait, on va pas pouvoir continuer. Si on continue comme ça, les choses vont s'auto-détruire et on vivra une sorte d'effondrement avec toute la dimension catastrophique que peut bien laisser présager le mot, quoi.
Qu'est-ce que je pense de la collapsologie ? C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps,
ouais.
Puisque Ouais, ça fait genre 3-4 mois que j'ai lu le bouquin de Pablo Servigné, Comment tout peut s'effondrer. Et que il s'avère que c'était un moment très mal choisi, puisque c'était pendant que ma femme était à la maternité et que du coup, j'ai un peu fondu en larmes parce que j'ai pris conscience que l'avenir de mes filles allait être très différent de celui que j'imaginais et très compliqué, et qu'elles allaient vivre dans une période où la population mondiale allait décroître. Ça fait très mal parce que c'est des décès, c'est des maladies et tout ça. Ça, c'est pas le récit que j'ai envie de leur donner. C'est pas le récit que j'ai envie de faire passer avec la collapsologie, parce que c'est porteur de plein d'autres choses, notamment des solutions. Des solutions alternatives qui font du bien, parce que quand on acquiert un certain niveau de connaissance de la collapsologie notamment, on acquiert des valeurs, et ces valeurs, quand on fait des actions en accord avec ces valeurs, on se fait du bien. Et moi, c'est le cadre de mon militantisme, du moins aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça me fait du bien de faire ça, et ça me donne des armes aussi pour aller voir mes collègues qui ne sont pas du tout dans le même délire que moi, et de leur dire, on peut faire autrement, et en fait, ça pourrait marcher si on s'y mettait tous, et ce serait cool, quoi.
Donc là, vous l'avez remarqué, on n'est pas du tout sur des regards ou des points de vue qui sont experts ou qui seraient un regard de spécialiste. On est vraiment sur des témoignages tout à fait personnels de deux militants de générations différentes. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ces témoignages ou pas du tout ?
Moi, personnellement, oui, parce que dans ce qu'on entend dans leurs témoignages, c'est surtout une dimension émotionnelle, je pense, qui ressort le choc de cette prise de conscience, en fait, et... Même ce que dit le jeune papa, c'est assez... on comprend, on peut se projeter quand on vient juste d'avoir des enfants, de découvrir ces faits et ce futur qui les attend. Ouais. C'est cette dimension émotionnelle qui ressort beaucoup et que je partage.
Moi, tout à fait, je me reconnais tout à fait là-dedans. Enfin, je pense que autant pour la jeune militante que pour le jeune papa, ça nous interpelle. Parce que c'est vrai que quand on prend conscience vraiment de la perspective de l'effondrement, c'est peut-être quelque chose qu'on avait en tête avant, mais là, vraiment, de mettre des mots, des chiffres bruts là-dessus, ça remet en question complètement notre avenir, la perspective d'avoir des enfants, oui, peut-être, dans quel monde est-ce qu'ils vont vivre. Et ça remet complètement en question notre vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous partager quand on est conscient de ça, quoi.
Marc ?
Compte tenu, on va dire, du vécu que j'ai aussi des enfants un peu plus âgés. Mais même pour eux, en fait, pour moi, c'est, j'allais dire, leur léguer quelque chose en mauvais état. Et quand je parle de léguer, ça, c'est plutôt le fait de la planète Terre en tant que telle. Bah oui, moi, bon, comme on dit, ça me fout les boules, quoi.
Et sur l'interview de Thomas, qui lui découvre en fait la collapsologie, il évoque Pablo Servigne. Alors Pablo Servigne, vous le connaissez certainement, mais on va juste dire en quelques mots. Pablo Servigne, Raphaël Stevens, ce sont, disons, les premiers auteurs francophones à avoir vraiment popularisé, disons, cette notion de collapsologie. Et Thomas explique que lui, ce qu'il veut retenir de la collapsologie, c'est pas simplement la prise de conscience de l'effondrement, mais c'est aussi en fait ce qui du coup est à construire derrière cet effondrement. Mais est-ce que y a déjà chez vous trois une prise de conscience de ce qui pourrait émerger aussi derrière, ou est-ce que vous êtes plutôt d'abord dans l'urgence de l'effondrement,
Marc? Initialement, en fait, quand on regarde, si on parle de Pablo Servigne, il a effectivement écrit un livre intéressant. Là où, moi, quelque part, quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu, ça m'a interpellé, c'est qu'il y avait quelque part déjà tous les chiffres. Quand je parle de chiffres, je fais référence en fait au modèle de Meadow, qui date des années 70, qui est un des premiers modèles qui prédit quelque part, non pas, on va dire, l'effondrement en tant que tel, mais au moins la consommation des ressources, l'augmentation de la population, la pollution, etc., etc. Et là où, pour moi, ça a été vraiment inquiétant, c'est qu'on avait déjà ces chiffres depuis très longtemps, mais qu'il y a il n'y a pas eu, on va dire, une appropriation de ces conséquences, ou tout du moins celles qui ont été faites l'ont été faites à notre détriment. Et c'est plus ça en fait qui est inquiétant, parce qu'au final, quand Extinction Rebellion dit la vérité, c'est un peu exactement ça. Aujourd'hui, les politiques ont suffisamment de bons conseillers pour savoir qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien et qui vont aller qu'en empirant, mais que rien n'est fait aujourd'hui pour freiner ça, quoi.
Mais pour revenir à ta question d'origine de savoir si on a directement pu envisager un futur ou un futur différent après la prise de conscience de cet effondrement à venir, je pense que, pour moi en tout cas, c'était pas tout de suite le cas. Je pense qu'on découvre tous ces faits, tous ces chiffres et ces perspectives, il y a d'abord beaucoup d'émotions qui arrivent et qui empêchent dans un premier temps de penser à des perspectives plus réjouissantes et de reconstruction d'une société plus viable. Je pense à la courbe de deuil dont parle beaucoup Pablo Servigne, donc une courbe en U en fait, donc qui passe par des émotions comme le déni, la colère, la dépression, et pour aller derrière vers une phase d'acceptation et remonter la pente pour pouvoir ensuite penser à faire des choses pour prendre les choses en main pour un futur plus viable.
Pour revenir à ta question, moi je pense que c'est vraiment le chemin qu'il faut suivre, c'est-à-dire l'action, pas de réaction passive par rapport à l'effondrement, parce que on va le précipiter tout simplement. Là, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de sauver les meubles, de faire en sorte de réduire les risques le moins possible. Et pour revenir sur la prise de conscience, personnellement, c'est pas un truc qui a été brutal du jour au lendemain, parce que depuis qu'on est petit, maintenant, moi j'ai 20 ans, donc voilà, depuis à l'école, on nous explique le réchauffement climatique, la couche d'ozone, etc., les gaz à effet de serre. Donc, pour moi, j'ai toujours eu cette intuition en tête qu'à un moment, voilà, ça va péter, mais c'était par degrés. Et c'est vrai que lire donc le livre de Pablo Servigne et Rebel Stevens, c'était un nouveau déclic. Mais j'avais déjà en moi cette idée qu'il fallait agir absolument et puis pas rester passif, quoi.
Marc, oui.
Et pour finir, effectivement, je suis un peu comme Solène. Je pense que intuitivement, on sent qu'il y a des choses qui vont pas bien, même si on va dire que globalement, la Terre continue de tourner. Moi, je me rappelle de quand j'étais jeune, puisque je suis un peu plus âgé que les deux autres personnes. Quand je roulais en voiture, avec ma voiture à essence, et que je faisais des kilomètres, j'avais un certain nombre de moustiques collés ou des insectes collés sur mon pare-brise, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment intuitif, c'est-à-dire qu'on le sentait, il y a eu aussi, on va dire depuis une quinzaine d'années, à chaque fois on dépasse, on a des nouveaux records de température, des nouveaux records de sécheresse, sauf que c'est tous les ans. Donc même sans être un scientifique pur, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc il y a une espèce, c'est pas une acceptation en tant que telle, mais c'est une prise de conscience, et maintenant moi aussi je dis je suis passé dans l'action, on ne peut plus attendre.
À présent, on va écouter Luxemal. Alors Luxemal, on l'a rencontré également à Lille début avril. Il s'est spécialisé en fait, notamment, en tout cas, dans l'histoire des mouvements écologistes depuis les 40 dernières années. Et il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes » qui a été publié en mars 2019.
Je m'appelle Luxemal. Je suis maître de conférence en sciences politiques au Muséum d'histoire naturelle. Et je travaille depuis une dizaine d'années maintenant sur les mobilisations écologistes radicales, donc d'abord des croissances, Nation Towns, et puis aujourd'hui un éventail un peu plus large de mobilisations, dont Alternatiba, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes, le sous-titre me tient à cœur, c'est pour insister sur le fait que la notion d'effondrement, si elle est présente dans les mouvements écologistes depuis les années 1970, c'est quelque chose de difficile à manier en tant que militant. Ça va avoir une charge anxiogène potentiellement, mais ça fait partie disons, du paysage écologiste. Et ça doit, le constat, on peut faire l'économie du mot effondrement éventuellement, mais la dureté du diagnostic écologique et climatique actuel doit s'articuler ou peut s'articuler avec une action politique qui peut prendre des formes très variées par ailleurs, mais que il n'y a pas de démobilisation. L'effondrement ne conduit pas nécessairement à la démobilisation. Une perspective catastrophiste en écologie politique ne conduit pas nécessairement à la démobilisation. Ça peut au contraire conduire à démobilisation, je pense, comme on le voit aujourd'hui à Alternativa, hein, où la notion d'effondrement n'est pas... Elle fait débat, mais en tout cas, elle n'est pas démobilisatrice. Vers 2004-2005, quand je terminais mes études, théoriquement au départ, j'étais en master sur le développement durable, et il se trouve que, comme pas mal de jeunes gens de mon âge à cette époque-là, j'ai assez vite perdu confiance dans la capacité du développement durable à répondre à la crise écologique, et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres mouvements, plus radicaux dans leur anticipation des ruptures à venir. En l'occurrence, pour moi, c'était surtout le mouvement de la décroissance qui m'a amené à réfléchir aux limites du développement durable, aux limites à la croissance, aux risques d'effondrement. Et finalement, c'est devenu un objet de réflexion régulier pour moi. Et puis finalement, c'est devenu mon objet de recherche au long cours. Moi, je travaille sur la manière dont les mobilisations écologistes se recompose au début du XXIe siècle face à la perspective croissante d'une rupture qui pourrait prendre la forme d'un effondrement, même si de mon point de vue le mot effondrement est important, mais n'est pas le seul qui peut désigner ce qui nous attend. C'est-à-dire que la notion d'urgence climatique, elle s'inscrit dans l'idée que, ce qui est en train de se répandre dans nos sociétés, que certains seuils d'irréversibilité climatique sont déjà passés, que limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est peut-être déjà trop tard. Donc il y a une urgence dans la mesure où on passe d'une rhétorique de la pure anticipation à une rhétorique qui va mêler anticipation et adaptation résilience, et on passe de plus en plus à un discours des générations sur les générations futures, à un discours sur les générations présentes. Alors ça, c'est plutôt pour l'urgence climatique. Pour l'effondrement, je pense, alors c'est une notion délicate à manier, la notion d'effondrement, mais je crois que la notion d'effondrement va davantage renvoyer à l'idée de rupture dans l'organisation sociale, donc plutôt comme conséquence de la crise climatique qui vient s'ajouter à d'autres crises comme la crise de la biodiversité, l'acidification des océans, la déforestation, la raréfaction des énergies fossiles, etc. Alors, je pense que dans les années 1960-1970, on parlait déjà d'effondrement, ça c'est certain, mais plutôt vraiment dans une rhétorique du long terme. Même dans le rapport Meadows de 72, on disait il y a des risques d'effondrement vers 2030 au plus tôt, dans les scénarios les plus pessimistes. Donc c'était dans 70 ans, donc bon, grosso modo, c'est les générations futures. Ce qui a commencé à changer dans les années 2000, je pense, dans les mouvements comme la décroissance et les transition towns, c'est qu'on a commencé à voir émerger des mouvements qui prenaient acte qu'il y avait certains seuils d'irréversibilité qui étaient passés, qu'il serait impossible d'éviter les chocs et que l'enjeu serait de limiter les chocs et de conduire la meilleure descente énergétique créative possible au milieu de choses qui sont en train de se casser la gueule. Donc ça, c'était dans les années 2000, c'était quasiment limité à ces deux mouvements-là. Je pense que ce qui est en train de se passer maintenant, depuis, je dirais, quelques années, ça n'a pas de sens de réduire ça, dans la décennie 2010, ça n'a pas de sens de réduire ça à une date, c'est l'hypothèse sur laquelle je travaille actuellement, c'est la démarginalisation de ce que j'appelle la perspective catastrophiste, cette pensée de la rupture ou du basculement. Et cette démarginalisation, elle passe par plusieurs choses. Elle passe notamment par une diversification des organisations et des associations qui vont parler, par exemple, d'effondrement, mais pas seulement d'effondrement. Moi, je pense que les théories de la décroissance s'inscrivent aussi là-dedans. Et ce que je fais beaucoup dans mon travail, c'est aller voir quels sont les autres vocabulaires utilisés dans d'autres pays. Donc, en Angleterre, on va parler beaucoup de deep adaptation, en ce moment, d'adaptation profonde. C'est-à-dire, c'est pas juste adaptation au réchauffement climatique en plantant des arbres pour limiter les effets de canicule ou en faisant des digues. C'est l'adaptation à quelque chose qui ressemble quand même assez furieusement à l'effondrement. Mais le mot est moins central. Moi, j'essaie toujours de réinscrire ça dans un paysage plus large. Alors, est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce que les mobilisations écologistes s'emparent suffisamment de la question de l'effondrement ? Je pense que c'est... elles sont en train de le faire. Le mot effondrement n'est pas incontournable là-dedans. Je pense qu'il y a une diversité de mots et de notions pour mettre des mots sur ce qui nous attend. Donc ça peut être décroissance, déclin, effondrement, puis descente énergétique créative. Enfin, on comprend que c'est quand même des pentes assez raides, où il s'agit d'inventer la meilleure société possible face à ces contraintes-là. Et voilà, les mobilisations écologistes essayent de se repositionner dans ce contexte-là, et je pense que ça, en plus, elles le font dans un contexte où la société est aussi à un rythme différent en train de comprendre et d'acter qu'il y a certains seuils d'irréversibilité qui sont passés. Quand on voit la répétition des canicules et des phénomènes météorologiques extrêmes d'année après année, on voit aussi qu'il y a une forme de prise de conscience, même si c'est toujours un peu flottant l'idée des prises de conscience, dans une bonne partie de la société, dans une grosse minorité, où les idées d'après-croissance ne sont plus juste des idées de dingue, ça commence quand même à gagner en légitimité. Ça ne veut pas dire que les gens y adhèrent nécessairement, mais ce n'est plus disqualifié d'emblée.
Avant de redonner la parole à nos invités, je vais revenir sur quelques formules que Luc Semal a utilisées dans son intervention, parce qu'elles ne sont pas forcément connues de tout le monde. Il parlait à un moment donné du mouvement des Transition Towns. Alors, on va expliquer rapidement de quoi il s'agit. C'est le mouvement de transition qui est né en Grande-Bretagne en 2006, dans la ville de Totnes, à l'initiative d'un enseignant en permaculture qui s'appelle Rob Hopkins. Il existe aujourd'hui plus de 2000 initiatives de transition dans le monde, dans 50 pays, dont 150 en France, réunies dans le réseau international de la transition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? L'objectif, c'est d'inciter en fait les citoyens d'un territoire, que ce soit un bourg, un quartier, une ville ou un village, à prendre conscience d'une part des profondes conséquences que vont avoir sur nos vies la convergence du pic du pétrole et du changement du climat, et d'autre part de la nécessité de s'y préparer concrètement. Et puis, Luc Semal faisait référence également à la société thermo-industrielle. C'est un terme qu'on va entendre encore dans d'autres interviews. Et quand on parle de société thermo-industrielle, en fait, c'est une société dont l'économie et l'industrie sont basées principalement sur les énergies fossiles. Voilà. Pour revenir donc à l'interview de Luc Semal, donc voilà, là on a un point de vue évidemment qui est beaucoup plus universitaire et beaucoup plus un regard de chercheur. La collapsologie aujourd'hui se développe depuis quelques années, mais les notions, la théorie, les théories de l'effondrement, elles sont relativement anciennes, hein, on l'a déjà un peu évoqué. Mais finalement, les mouvements écologistes ne s'en sont pas tellement emparé avant un passé relativement récent, et donc d'où la référence à Transition Towns et au mouvement de la décroissance.
Alors, si on revient un petit peu sur l'historique, moi, ce qui m'a interpellé quand même grandement, c'est ce fameux modèle de Meadows dont on parle, qui en fait a été, je crois que c'est 1970, il disait 72, mais je crois que c'est 70 le premier, ce qu'ils appellent le World 3. Initialement, ça s'appelait les limites de la croissance. Et c'est ça où c'est intéressant, c'est que de limites de la croissance, on est passé à collapsologie. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que, pour moi, le résultat de la non-action des gouvernements dans leur ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on arrive vers quelque chose qui ressemble à un effondrement. Et le fait est qu'aujourd'hui, quand on parle d'effondrement, ça fait très peur. Alors quand je dis très peur, même simplement au sein de ma famille, quand j'en discute avec mon épouse, qui est, on va dire, pas forcément ralliée à l'intégralité de mes convictions, mais qui m'entend, elle me dit « évite d'en parler au dernier ». Bah oui, parce que si demain ça s'effondre, en tant que jeune homme de 16 ans, pourquoi il irait à l'école, pourquoi il apprendrait, pourquoi il continuerait comme ça, si c'est effectivement pour que derrière, il n'y ait plus de perspective. Donc là, pour moi, où c'est intéressant, c'est que historiquement, on avait tout ce qu'il fallait pour le faire, mais il y a eu quand même énormément de contraintes, ou enfin, non, c'est même pas des contraintes. Il y a eu du lobbying, en fait, déjà à l'époque, que ce soit par les industriels qui disaient que ben, c'est quelque chose, ce fameux modèle de Mido et tout ce qui est associé à cette limite de la croissance, c'était un empêchement de faire du business. Il y a eu même des mouvements religieux qui ont dit mais pourquoi l'effondrement, dans le sens où dans le modèle de Mido, il y avait le fait qu'il y avait une... Il fallait limiter la croissance démographique. Et le fait de limiter la croissance démographique, ça allait à l'encontre de certains principes religieux. Donc il y a eu un certain nombre de lobbying, que ce soit industriel, religieux, voire même de personnes qui disaient « mais en fait, c'est juste pour faire peur ». Et puis surtout, comme le disait tout à l'heure M. Semal, c'est que c'était il y a 70 ans. Donc pour eux, il y avait aussi un une impression que de toute manière, la technologie, les sciences nous sauveraient de cette future catastrophe qui était dans 70 ans.
Alors, Luc Semal, il concluait son interview en disant que, même si la prise de conscience de l'effondrement grandit, elle n'est pas du tout démobilisatrice. Et en fait, on pourrait même dire qu'au contraire, elle crée en fait de nouvelles mobilisations. Solène, comment tu expliques en fait qu'il n'y ait pas eu peut-être déjà des mouvements jeunes, vraiment quand je parle d'adolescents ou de jeunes adultes, qui se soient manifestés beaucoup plus tôt?
Oui, je ne pense pas qu'il y ait eu une prise de conscience tardive, peut-être chez certains, parce que c'est quelque chose que vraiment, le changement climatique, ça on le sait depuis des années. Mais on n'avait pas vraiment la prise de conscience que nous, on pouvait agir là-dessus. Disons que moi, c'est que quand je suis arrivée dans les études supérieures que j'ai prise de conscience que j'étais une citoyenne, que j'avais un certain pouvoir en fait sur les prises de décisions politiques, sur tout ce qui nous entourait. Et c'est peut-être de là aussi que vient le problème, à mon avis. Après, sur la question du catastrophisme, je pense pas que ce soit... C'est sûr, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'angoisse. Au niveau des affects, c'est assez intéressant et assez paralysant aussi parfois quand on en discute. Mais c'est aussi quelque chose qui donne envie de se battre. Enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est vraiment ça. Je ne me laisserai pas faire. Je ne vais pas laisser le monde s'effondrer comme ça, sans agir, je ne sais pas. Et on se dit que... Après, l'effondrement, il faut aussi se dire que c'est simplement une théorie pour l'instant. Personne ne peut prédire le futur. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, on peut toujours essayer de... Disons de sauver les meubles, parce que sinon, on a juste à, je sais pas, à attendre que tout s'effondre et puis c'est tout.
Alors Marc, t'avais pas l'air forcément d'accord avec...
Disons, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'un modèle théorique, mais ce qui est intéressant... Alors je reviens sur ce modèle, hein, parce que je l'ai un peu... Quand j'ai lu le livre de Pablo Servigne, ça m'a un peu interpellé, et du coup, je me suis renseigné un peu sur ce modèle. C'est qu'il y a eu des mises à jour de ce modèle. Et dans ces mises à jour, c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, c'est que ça suit ce fameux modèle initial de 1970. Donc certes, on n'en est pas encore, on n'a pas passé le pic de l'effondrement, mais en tous les cas, on s'y attelle, semble-t-il, fortement à y arriver. Donc même si aujourd'hui, on ne peut pas prédire l'avenir, si on ne fait rien, pour moi, on va y arriver.
Oui, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas vraiment encore quelle forme ça va prendre. Et dans quelle société est-ce qu'on vivra ensuite? Donc c'est sûr que c'est pour ça aussi qu'il faut agir le plus vite possible et à la plus grande échelle possible.
Ouais, là par contre, je suis d'accord avec toi. Le fait de savoir que ça va arriver, si on n'agit pas, ça effectivement, ça sera chiant. Donc, après,
ouais. L'échange n'est pas fini. Hein. On va poursuivre, mais on va réécouter Gabi, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, hein, 17 ans à Poitiers. Elle va nous parler justement un peu de son ressenti finalement face à cette prise de conscience de l'effondrement. Donc ça va dans la continuité de notre discussion.
Alors du coup, l'effondrement, c'est une perspective qui est assez terrifiante parce que ça consiste en une suite de catastrophes, donc c'est loin d'être joyeux. Et en fait, c'est ce sentiment d'urgence pour essayer d'éviter l'effondrement, qui fait que je me suis engagée à fond. Avant, j'avais une conscience écolo dans la mesure où je savais que le climat c'était une question, mais ça restait assez éloigné de moi. Et lorsque j'ai pris conscience de la perspective de l'effondrement, je me suis mise à m'engager quotidiennement pour essayer de faire un maximum de choses. Donc voilà, ce que ça a changé, c'est avant tout une augmentation énorme du taux d'engagement et puis une détermination aussi. Et sinon, à titre un peu perso, moins sur la vie militante, plus psychologique, même si c'est lié, c'est aussi le fait que la perspective de l'effondrement, ça me stresse, et il y a des moments où je suis vraiment angoissée à l'idée de ça. Ça me pousse à m'engager toujours plus, et je me demande aussi à quel point je vais m'engager, parce que lorsqu'on a une telle perspective, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer le pire, et on peut pas s'empêcher d'imaginer qu'on va faire à un moment des trucs terribles pour essayer d'éviter ça, et ça me questionne beaucoup.
Et Nora, je me tourne vers toi. Après tous les témoignages qu'on a entendus, l'effondrement, c'est démobilisateur, c'est hyper anxiogène, ou est-ce qu'au contraire, tu penses que ça va entraîner un plus grand sursaut dans la société ?
C'est anxiogène, certes, je pense que ça l'est, mais par contre je pense que c'est très mobilisateur dans le sens où on n'est plus dans l'écologie comme une sorte de hobby un peu mignon, sauvons les dauphins et les ours polaires. Là on n'est plus sur sauver la planète ou sauver les animaux, on est sur sauver l'espèce humaine c'est se sauver nous-mêmes. Et notre futur, parce qu'on sait, on commence à prendre conscience, notre génération en tout cas, à 24 ans, l'effondrement, on va se le prendre dans la gueule en fait.
Mais pour rebondir aussi, un peu aussi sur ce que disait Marc tout à l'heure, là je me tourne encore plutôt vers Solène et Nora. Quand Marc évoque le fait que peut-être un de ses enfants le plus jeune, s'il prend conscience de cet effondrement, il n'aura plus du tout envie de s'investir dans son avenir professionnel, d'essayer de se trouver un métier, de poursuivre ses études. Moi ça me rappelle un peu aussi les mobilisations de Greta Thunberg lorsqu'elle fait ses grèves devant le Parlement suédois, et puis dans les prises de parole aussi, c'est-à-dire à quoi bon en fait faire des études si notre avenir est condamné au néant. Est-ce que vous avez l'impression que ça c'est quelque chose qui pourrait effectivement monter aussi chez les jeunes, c'est-à-dire se dire la priorité c'est même plus en fait d'envisager la suite de mes études, de me construire un avenir professionnel, c'est d'abord d'agir pour rester sur une planète vivable.
Potentiellement oui, je pense que certains pourraient avoir cette réaction-là, surtout face à l'urgence et peut-être dans l'anxiété, mais avec, je pense que ça va surtout pousser certains jeunes à réfléchir. Par exemple ton fils de 16 ans, il n'a pas encore choisi je pense ses futures études, mais du coup potentiellement plutôt que se lancer dans la finance, peut-être qu'il va partir dans le développement durable ou l'ingénierie, enfin quelque chose qu'il pourra mettre au service de cette cause et de ses convictions et de ses valeurs.
Some new boots and braces and some Levi's slave press. I was sitting indoors with a cup of tea. There was a knock on the door, it was another. And my mum said to him, come in, because she knew it was a saint up. And then they accused me and said that I'd have to come down to the station and be witnessed. So I went down there and said that I'd done it and I denied it all. But then we'd all made different statements and we were all wrong. Anyhow, I'm proven guilty and I got 2 years in Borstal. So they gave me this rotten old clothes, they had numbers on all the time. Bar of soap and a towel, they had a number on all and a razor and a couple of blades, which were blood in here. And give me my number, 5360. The keys are coming around the governor and he says, I've got a friend. If you're good in that, you can go down and visit him with him. He's got a nice swimming pool down here. Some boys go down here. I thought, yes, if you've been through.
interview. Et cette fois-ci, on va passer à deux nouveaux intervenants. Alors, il y en a un qui porte un nom curieux, il s'appelle Cal. Et l'autre s'appelle Malika Perrault. Alors, Cal, lui, en fait, c'est donc Cal, c'est l'abréviation de Charles Adrien Louis, qui est militant à Alternatiba et qui est aussi le co-auteur avec Guillaume Martin, tous les deux au sein du cabinet B&L Évolution, d'un rapport qui s'appelle « Comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés ». Donc c'est une étude qu'ils ont menée, qu'ils ont publiée en fin d'année dernière et qui détaille les mesures permettant de rester sous le seuil de 1,5 degré d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis, on écoutera également Malika Perrault. Et Malika, elle est membre de l'équipe nationale d'animation d'Alternatiba et d'ANV COP21, mais elle est également chargée de campagne aux Amis de la Terre France. On écoute Cal d'abord.
Bonjour, je suis Charles-Adrien Louis, militant Alternatiba ANV COP21. Dans les réflexions que j'ai et dans les discussions que j'ai, on a du mal à se positionner sur l'effondrement avec un grand E qui a l'air d'être un concept. Nous, on a plus besoin de définir de quoi est-ce que l'on parle. Est-ce que c'est un effondrement des écosystèmes ? Est-ce que c'est un effondrement d'un système financier, de la société thermo-industrielle, etc. Nous, quand on aborde cette question-là et les effondrements, c'est plutôt un constat que le système dans lequel on est tous engagés, il franchit allègrement, il dépasse allègrement les limites planétaires, les limites en termes de consommation et d'épuisement des ressources essentiellement, et qu'à un moment donné, on va se retrouver avec un besoin de consommation qui ne sera pas du tout corrélé avec ce que la planète pourra nous offrir. Et ça, ça va créer un impact assez fort sur les peuples en tant que tels. De là à savoir si on aura brutalement une rupture de nos modes de vie ou si ça va être un lent déclin qui va se prolonger sur des dizaines d'années, comme ça a été le cas pour la chute de l'Empire romain. C'est pas mon rôle, en tout cas, de déterminer ça.
Alors, la collapsologie, c'est le nom de la discipline scientifique qui a été popularisée notamment par Servigne et Stevens. L'effondrement, par contre, c'est le concept qui est utilisé par la collapsologie. Enfin, c'est l'objet que décrit la collapsologie. Et effectivement, l'effondrement, c'est un mot obus. C'est le mot qui fait tilt, qui interpelle et qui peut permettre de parler de plein de choses. En fait, ça me questionne surtout parce que je trouve que c'est très flou. C'est-à-dire que si on mélange effondrement de la société thermo-industrielle et effondrement dans le sens on a franchi des frontières écologiques, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, le fait de mélanger les deux, je trouve que ça peut même être problématique. Pourquoi ? Parce que on dit souvent « Ah, mais l'effondrement, ça provoque une période de deuil, de sidération, etc. » Oui, mais si c'est l'effondrement de la société capitaliste, on devrait plutôt être joyeux et content. Il y aura une poignée d'élites de privilégiés qui, eux, se diront « Oh non, mes privilèges vont s'écrouler. » Mais pour les autres, notamment pour les plus pauvres, pour ceux qui trinquent, qui font les frais aujourd'hui du système capitaliste, ça va être plutôt une libération. Et le mouvement aujourd'hui hyper populaire des Gilets jaunes en France, ça montre quand même que les gens, ils ont compris qu'ils sont en train de se faire vraiment broyer par ce système. Et donc, pour moi, il faut vraiment qu'on précise ce dont on parle. Parce qu'il y a autre chose. Effectivement, quand on parle de... Bah là, on est en train de franchir les frontières de la planète. Ça, c'est le vrai problème. Ça, c'est vraiment ce qui est angoissant. Et du coup, on ne peut pas dire « Ah, bah du coup, l'effondrement est inéluctable. » Non. Enfin, moi, ça, je le réfute. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une posture de privilégié de dire « Bah, moi, je considère de toute façon tout est perdu et donc maintenant comme conséquence travaillons surtout sur notre résilience, notre adaptation, etc. Mais on ne peut pas se permettre de faire ça. Pourquoi ? Parce que en fait ce qui n'est pas perdu, c'est notre capacité à perdre le moins possible. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais dans le sens où si jamais on dépasse 1,5 degré parce qu'on n'a pas changé le système suffisamment vite, il faudra se battre pour les 1,6, pour les 2 degrés, etc. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un impératif moral et une responsabilité morale que nous avons, notamment nous, pays du Nord, pays responsable du dérèglement climatique. Et donc, on a cette responsabilité-là de ne pas baisser les bras parce que, en fait, fait, ça, c'est une posture de privilégié. Et derrière, qui c'est qui va trinquer? C'est ceux qui trinquent déjà du dérèglement climatique. Donc, c'est les pays du Sud, c'est le Bangladesh qui est déjà sous les eaux, c'est les pays d'Afrique qui souffrent de la désertification. Et en fait, dire, bon, bah, c'est tout est foutu, construisant de notre résilien, ça ne fonctionne pas. Si, en fait, on ne construit pas un nouveau système qui, lui, est basé sur les valeurs fondamentales de la solidarité, de la justice. Et donc, je pense qu'on peut parler d'effondrement parce que ça provoque cette prise de conscience du risque. Mais par contre, derrière, il faut qu'on affirme nos impératifs de responsabilité historique, de justice sociale, de justice climatique, et qu'on pousse tout le monde à, au nom de cette responsabilité-là, entrer en résistance et construire des alternatives qui soient crédibles.
Et la définition de l'effondrement de Yves Cochet et le fait que une société, enfin un État, n'est plus capable de subvenir aux besoins de ses peuples. C'est, enfin, disons, si on imagine que ça va arriver, c'est des situations en fait qu'on voit aujourd'hui dans le monde, notamment au Venezuela en ce moment, où l'État a beaucoup de mal à subvenir aux besoins de sa population. Est-ce que ça pourrait arriver en fait de manière suffisamment rapide, on va dire, pour pas qu'on ait mis à mal l'ensemble des écosystèmes? En fait, c'est un peu ça ma question et ma crainte, c'est qu'en fait, ça n'arrivera pas de cette manière-là, qu'il y a tout un tas de mécanismes que peut mettre en place un État ou les élites pour se protéger un maximum, et que les pays occidentaux, on va dire, ou les pays les plus forts aujourd'hui peuvent mettre pour que ça touche d'abord d'autres pays, et eux... se prémunir au maximum de ça. Et plus on va attendre et retarder l'échéance, plus ça risque d'être brutal et de faire mal. Après, moi, j'ai pas comme objectif de me projeter là-dedans, mais plutôt de faire en sorte qu'on choisisse une voie de sobriété, une voie de décroissance qui nous évite ces chocs brutaux qu'on nous promet.
Alors, dans l'intervention de Malika Perrault, elle insiste pas mal donc sur. Elle parle à un moment donné pour l'effondrement d'un mot obus, et elle explique que derrière en fait ce mot, on peut y mettre tout de même. Enfin, il y a finalement une multitude encore d'interprétations, de sous-interprétations. Et elle est très attachée donc à connecter en fait la prise de conscience face à l'effondrement à la notion aussi de justice sociale et de justice climatique. C'est aussi des valeurs qui sont portées au sein de vos mouvements ou que vous, à titre individuel, vous êtes attachée. Auquel vous êtes attaché?
Alors moi personnellement oui, je la rejoins complètement sur son constat. Il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec. D'ailleurs dans le livre de Pablo Servigné et de Raphaël Stevens, quand il parle des modèles mathématiques, il explique à un moment qu'il y aura, enfin simplement quand on regarde les modèles, celui où il y a le moins d'inégalités sociales, c'est celui où on s'en sort le mieux. Donc simplement, même pour réfléchir de manière cynique, ça ne peut pas fonctionner si on continue avec un système où il y a autant d'inégalités sociales, où il y a autant d'inégalités de richesse dans le monde. Et aussi, ce qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est que oui, on est des privilégiés, on est un pays, la France, où on est un ancien pays colonisateur, on est dans les pays les plus développés. Et aussi, les conséquences du réchauffement climatique, elles vont toucher, enfin du réchauffement climatique et toute la biodiversité, etc., qui s'effondre, elles vont toucher en premier les moins privilégiés, les plus défavorisés, donc les pays, par exemple, je pense aux pays d'Afrique, je pense à la Chine, à l'Inde, qui sont terriblement pollués. Et je pense aussi aux couches sociales, même dans les pays les plus développés, qui sont le moins protégés, ne serait-ce que pour la santé.
Ce que je peux ajouter, c'est que en fait, on rentre carrément dans la. Enfin, pour moi, c'est une dimension politique, mais quelque part, Extinction Rebellion, c'est même carrément marqué dans leurs revendications. C'est-à-dire que la création d'assemblées citoyennes chargées de décider des mesures à mettre en place, c'est pas pour rien. C'est aussi quelque part, il y a sous-jacent derrière cette égalité, ou tout du moins cette justice sociale, cette équité plus que l'égalité d'ailleurs, à mettre en place, puisque aujourd'hui, comme le disait Malika de chez Alternativa. Le modèle aujourd'hui dans lequel on vit, c'est un modèle pour des privilégiés. Mais bon, on en est tous conscients. Mais c'est-à-dire que c'est pas que c'est antagoniste, mais quand on parle politique, après, on dit vous êtes plus des écologistes ou vous êtes plus pour les, enfin, vous êtes plus pour lutter contre l'effondrement, vous êtes pour lutter pour faire de la politique. Bah, à un moment, oui. Puisque de toute manière, le modèle qui aujourd'hui est mis en place fait que ça nous pousse vers plus de consommation, plus, toujours dans un univers limité, sur une planète où pour l'instant on ne peut pas s'échapper. Et c'est certainement pas demain la veille qu'on va pouvoir dire bah, c'est pas grave, on ira polluer une autre planète. Donc non, mais je suis totalement d'accord avec Solène. Et bon, mais après, il y a énormément de choses à dire et à développer là-dessus.
On va reprendre les interviews. On va à nouveau écouter Cal et Malika, qui vont plutôt mettre l'accent sur les actions militantes et les solutions. Alors, solutions peut-être à mettre avec des guillemets, l'engagement moral, à lutter et à ne pas être uniquement dans une logique de survivaliste.
Si je comprends bien ce que c'est collapsologue, c'est la posture scientifique d'analyse de ces effondrements-là. Et le champ de la discussion peut porter sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose de faire. Et donc c'est là où les collapsologues, quand ils sont scientifiques, on n'a pas tout à fait la même posture avec nous qui sommes à notre humble échelle des acteurs de la mobilisation. Donc nous, en fait, on se pose la question de très concrètement, on utilise ce terme de l'effondrement, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va en proposer pour les, enfin qu'est-ce qu'on va proposer aux gens, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion sur ce qu'il faut faire et quel programme politique on fait. Et justement, l'idée, c'est de ne pas tomber dans des écueils survivalistes. Et les collapsologues ne sont pas nécessairement survivalistes. Hein. C'est vraiment, je pense, l'interprétation très caricaturale de leurs propos. Mais il y a la nécessité de rappeler les enjeux de solidarité internationale et de justice qui ne sont pas forcément décrits dans les textes sur l'effondrement. Et donc, c'est nous comment on se place en tant qu'acteurs du changement et acteurs de la mobilisation, quoi.
En fait, comme moi, ça a été assez progressif. Mon engagement, il a d'abord été... mon engagement climat, on va dire, il a d'abord été au sein de l'organisation Avenir Climatique, qui, elle, sensibilise, forme, apporte des éléments de réflexion aux étudiants, aux jeunes, sur les enjeux énergie-climat. Donc c'était plus, mais c'est une approche qui est un peu liée aussi au fait que moi, je suis ingénieur, qui est comprendre. Donc le premier point, ça a été vraiment comprendre la situation. Et après, a paru l'aspect plus militant, mais qui là a émergé chez moi, pas forcément par la compréhension des enjeux, mais plus par la participation à des événements comme Alternatiba, à Bayonne le premier, puis après à la COP21 et tout ce qui s'est passé pendant la COP21. Et c'est là où progressivement, en fait, on en arrive déjà à comprendre qu'il y a un problème, ensuite à se demander comment est-ce qu'on peut agir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme alternative ou autre. Progressivement, on se rend compte que tout ce que l'on fait à son échelle ou ce qu'on essaye de mettre en place n'est pas suffisant parce que, quelle que soit la vitesse à laquelle on va, le système se renforce beaucoup plus rapidement. Et donc on en arrive à faire le constat qu'il faut passer par de la désobéissance, par de la résistance et essayer de bloquer les rouages de ce qui nous pousse à ce déclin forcé ou à cet effondrement, si on va dans la théorie de Yves Cochet. Et justement, après, il y a tout le débat de qu'est-ce qu'on fait quand on est conscient d'un possible effondrement des écosystèmes. Moi, je pense que c'est super important, tous les discours qu'il y a sur l'effondrement, sur la collapsologie, etc., pour faire prendre conscience et pour avoir un vrai discours de vérité par rapport aux gens. Maintenant, il faut ne pas en conclure... ne pas faire de repli sur soi, en fait, et ne pas être dans une position survivaliste, mais vraiment de se dire comment est-ce que tous ensemble, a priori on est société, on s'est organisé en société collectivement, l'idée c'est de répondre à ça et de subir le déclin ensemble et de l'améliorer pour tout le monde, et pas de se dire les premiers qui vont penser au truc seront les premiers survivants, les autres tant pis pour eux. Moi, du fait que j'ai pu pas mal étudier les questions, que j'ai une capacité à synthétiser les données scientifiques, etc. Aujourd'hui, je m'en sers plus. Enfin, ma cible de communication, ce sont les gens qui sont déjà dans la compréhension des enjeux et qui veulent faire des choses et essayer de tenir un discours de vérité le plus proche possible de ce que peuvent dire les scientifiques pour qu'eux comprennent comment, quelle est en fait l'ampleur de la situation dans laquelle ils sont. Après, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas... je ne fais pas de sciences cognitives, etc. Donc, je ne suis pas capable de dire à quel public il faut donner quel message pour qu'il se bouge. Donc, je laisse le soin à d'autres de le faire. Mais mon positionnement, moi, c'est plutôt de dire ben, aujourd'hui, il ne faut pas vouloir faire du positif. Pour faire du positif, faut être, je préfère avoir un discours le plus réaliste possible. Quitte à ce que ça percute les gens, au moins... j'ai l'impression que tromper les gens pour leur bien, c'est un peu bizarre comme raisonnement, donc c'est pas le choix que moi je fais. Après, le discours, c'est un peu le même, c'est juste qu'on va pas. Quelqu'un qui a pas du tout entendu ces notions-là, on va commencer par lui expliquer les enjeux qu'il y a derrière. Quelqu'un qui a bien compris ces questions-là, on va plutôt s'intéresser à quelles sont les portes de sortie qu'on peut trouver, ou comment est-ce qu'on peut trouver du sens collectivement à ça, et essayer de pas penser à un repli sur soi et advienne que pourra. Et puis voilà. Après, il y a aussi un autre type de discours qu'on entend assez souvent, qui est les gens qui disent foutu pour foutu, autant tout cramer, tout dépenser. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que les gens qui disent ça, ce sont des gens qui sont dans une position dominante et qui, derrière ça, même s'ils tiennent ce discours, ils ne pensent pas à foutu pour eux-mêmes. Eux, ils ont des solutions de repli. Eux, ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont acheter leur maison de campagne en Suède ou ce genre de choses-là. Juste, ils ne perçoivent pas que si ça s'effondre, si les États s'effondrent, tel que le prédit Yves Cochet, ça touchera toutes les classes et on ne pourra pas... s'enfermer dans un bunker et être heureux pendant 50 ans. Il y a un moment donné où ça n'a aucun sens. Donc je pense que c'est des gens qui veulent juste fuir le problème et qui leur permet de ne pas être responsable, on va dire, sur du temps. Donc je ne sais pas quel est le bon levier de communication pour eux, mais en tout cas, dans ma réflexion sur ça, c'est de se dire attention, les personnes qui nous disent ce discours, en fait, je me rends compte que c'est essentiellement... des gens qui n'ont pas de problème aujourd'hui dans la société.
On arrive bientôt à la conclusion de l'émission. Là, sur les deux dernières interventions, on a, je dirais que Kyle et Malika reviennent surtout sur des profils, développent encore là, la diversité des profils, des postures qu'on peut avoir. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils disent sur ces postures, justement? C'est-à-dire le je m'en foutiste, après moi le déluge, celui qui est dans le foutu pour foutu. Enfin, est-ce que ça, c'est des profils des gens que vous rencontrez? Et est-ce que vous avez, même au sein de vos organisations ou dans les gens que vous côtoyez, vous avez aussi des fois en fait, des discours qui sont variés? Parce qu'une organisation, c'est aussi une multitude d'individus et tout le monde n'est pas après dans le même schéma de pensée.
Oui, en effet, ouais. On a un peu tous les profils. Je pense pas avoir rencontré de je m'en foutiste ou de aquaboniste comme Pablo Servigne, je crois, dit. Parce que, tout simplement, c'est pas des gens qui vont aller vers le militantisme. J'ai un peu l'impression aussi que c'est une phase, une sorte de déni ou un moment dans la courbe de deuil. Mais je pense que quand on a conscience des enjeux, le militantisme finit par s'imposer. Même quand on est dans une réflexion autour des enjeux climatiques, on commence par s'informer. Une fois qu'on a absorbé un peu tous les contenus qu'on peut absorber, on va passer à l'action individuelle dans nos quotidiens. Et progressivement, on se rend compte que finalement, cette action individuelle, bien que le gouvernement essaye de nous dire le contraire, va pas être suffisante et que c'est pas à nous de faire les changements que dans nos quotidiens. Du coup, c'est le schéma logique est de basculer vers le militantisme ou du moins l'action collective. Donc ça me paraît être la chose la plus logique à faire, en tout cas de mon point de vue. Et en plus, c'est aussi entrer en résistance pour limiter les dégâts, limiter le choc, mais aussi organiser, c'est un premier pas aussi vers la résilience pour pendant l'effondrement ou après l'effondrement, parce qu'au final, on va vers les gens, on rencontre des profils qu'on n'aurait pas croisés sinon dans notre quotidien, on crée des groupes de proximité, d'entraide, etc. Et c'est quelque chose qui va être primordial bien au-delà d'un survivalisme plutôt matériel. Le lien social va être primordial pendant l'effondrement, si je peux dire ça.
Le fait est qu'aujourd'hui, pour moi, la plus grande difficulté, c'est plus le changement des mentalités. C'est-à-dire que quand on regarde, si on fait un tout petit rappel historique, à l'après-guerre, quand De Gaulle a dit « chaque Français doit avoir un steak tous les jours dans son assiette », quelque part, c'est une décision politique extrêmement forte puisqu'elle a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, il n'y a pas... Si le politique en tant que tel ne prend pas les décisions les meilleures pour nous, quand je parle de meilleures, c'est pour éviter justement qu'on se dirige droit dans le mur, alors ça sera forcément aux militants de les mettre en place. Et que ce soit d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit par l'intermédiaire d'associations comme Alternatiba, comme XR, comme Youth for Climate, ou d'autres. Je veux dire, globalement, s'il n'y a pas une... Et là, on va rentrer encore dans un espèce de terme politique de convergence des luttes, alors on n'y arrivera pas. Puisque aujourd'hui, les gens qui sont élus, que ce soit au sein d'une commune, au sein d'un département, au sein de l'État, globalement, une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est pas une histoire qui veulent le garder ou pas, mais ils font fonctionner un système. Donc aujourd'hui, ils sont pas là pour le modifier, ils sont là juste pour le faire fonctionner. Et ben, si on continue comme ça, ça ne marchera pas. Donc le changement de mentalité dans un premier temps, l'action forcément en même temps ou tout du moins concomitamment. Et puis après, il faut effectivement, si on parle des élites qui, le côté je m'en foutis, ça ne m'étonne pas, puisque quelque part, ils ont les moyens de pouvoir se prémunir de ça. Et ce dont parlait, je crois que c'est Malika ou non, c'est la personne d'avant, la Cal. J'ai aussi lu des articles où il y avait des gens suffisamment fortunés qui se préparaient, on va dire, des bunkers ou tout du moins des endroits qui seraient un petit peu... à l'abri des divers problèmes qui pourraient être posés par l'effondrement. Mais quelque part, moi, je pense que derrière, l'idée sous-jacente, c'est qu'ils se mettent à l'abri le temps que ça s'effondre et ils reviennent prendre le contrôle une fois que ça s'est effondré, qu'il n'y a plus que 3 milliards de personnes au lieu de 7 milliards. Donc si c'est pour ça, ce n'est pas la peine. Si c'est pour recommencer derrière, c'est pas un reset, hein, c'est pas un ordinateur, quoi.
C'est sûr qu'il y a aussi plusieurs degrés dans la prise de conscience et dans ce qu'on est prêt à faire. Moi, je pense que c'est un peu une échelle. On commence par changer son mode de vie. Ensuite, on va à une manifestation. Ensuite, on essaye de faire un peu plus. Ou peut-être que ça peut être tout en même temps ou l'un ou l'autre. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de ne pas culpabiliser les gens pour dire « Oh, tu utilises encore du plastique. Oh, tu fais ça, mais pas ça. Tu te dis écolo, mais tu fais ça. » C'est vraiment d'entraîner les gens avec nous. Chacun à son rythme, mais dans le but, c'est vraiment de se tourner vers l'action collective et oui, pas de se replier chacun dans son coin en attendant dans son petit bunker ou je sais pas.
Pour conclure, vous le savez sans doute, il y a des pays comme l'Angleterre et l'Irlande qui ont fait passer des motions récemment de déclaration d'urgence climatique. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, qui est un premier pas intéressant, ou est-ce que finalement, c'est juste un effet déclaratif pour faire plaisir à quelques-uns, mais qui est complètement vide de sens derrière, et vide de contenu, en fait.
Alors, pour moi, c'est une action symbolique, parce qu'en fait, ça ne les engage à rien derrière. C'est bien qu'elles soient là, parce que c'est des mouvements, notamment comme Extinction Rebellion, qui ont réussi à les pousser à déclarer cet état d'urgence. Mais derrière, le système n'a pas du tout changé, en fait. Theresa May, elle n'est pas allée dans une logique de transformation du système vers un mode de vie plus simple et moins d'énergie fossile. Donc c'est un premier pas pour moi.
Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'on pourra vraiment se réjouir qu'à partir du moment où il y aura des mesures étatiques contraignantes qui seront mises en place et pas simplement des déclarations comme Macron, président de la Terre, enfin champion de la Terre ou je ne sais plus quelle ineptie.
Très bien, je vous remercie beaucoup. Luc, merci. On arrive à la conclusion de l'émission. Comme d'habitude, on vous a donné des références du rapport de BNL Évolution. On vous a parlé du livre de Luc Semal. Toutes ces informations-là et puis aussi des liens vers des articles divers, vous pourrez les retrouver sur notre page du site de JTFM et puis sur la page web aussi d'Alternative Nantes. Je remercie beaucoup nos trois invités. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés parce que forcément, on ne peut jamais faire le tour de la question et on ne peut jamais aller complètement au bout de nos réponses, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. De toute façon, on se retrouve... Pour les militants de nos différentes organisations, on va sûrement se retrouver les 24 et 25 mai, puisqu'il y a deux grandes journées de mobilisation, pas seulement à Nantes, en France et même peut-être au-delà. Merci encore. On mettra également les coordonnées et les contacts pour les gens qui voudraient en savoir plus sur Youth for Climate Nantes et Extinction Rébellion Nantes. Merci et au revoir.
Merci.
Merci.
En état d'urgence climatique.